Son of Mug.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les ondes de Radio Campus Lille et vous écoutez le Villeneuve Mag, l'émission que vous retrouvez chaque mercredi lors de ce mois de juin et qui traite de l'actualité de la ville de Villeneuve-d'Ascq et ses environs. Semaine de la fête de la musique oblige, ce magazine va être aujourd'hui centré autour de la musique, évidemment avec un entretien en deux parties avec l'école de musique associative Cricrac qui fête ses 40 ans cette année, puis avec une chronique de Samuel qui présentera trois événements qui se dérouleront cette semaine. Commençons ce magazine avec l'association Cricrac qui vit une année particulière puisqu'elle souffle tout simplement ses 40 bougies. Pour l'occasion, nous nous sommes rendus cette semaine dans leurs locaux pour y rencontrer la directrice administrative et pédagogique Gaëlle Vallée ainsi que François Chastain, l'un des nombreux bénévoles de l'association. Cet échange était tout d'abord un moment de discussion autour de la genèse du projet Cricrac et de son évolution depuis 40 ans. Puis également un moment de discussion concernant les festivités mises en place en ce mois de juin pour fêter cet anniversaire. Voici donc tout de suite la première partie de ce long entretien avec Gaëlle Vallée et François Chastain de l'association Cricrac. Bonjour François Chastain et bonjour Gaëlle Vallée. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Cricrac ainsi que votre place au sein de celle-ci ?
Donc Cricrac, c'est une association d'éducation populaire qui fête ses 40 ans cette année. Elle a été fondée en 1985 par trois compagnons de musique. Les personnes de Michel Le Breton, Thibaut Alavoine et Patrice Gilbert, qui ont fondé l'asso en 85, qui au départ était une compagnie de création de spectacles jeunes publics. Et puis petit à petit, sont développées des actions pédagogiques dans les classes et autour des spectacles qui étaient présentés, pour devenir une école de musique un peu particulière avec une transmission essentiellement par l'oralité, donc il n'y a pas besoin de solfège pour venir apprendre la musique chez nous. Tous les cours sont collectifs, il n'y a pas de cours individuel à Cricrac, et avec la grande particularité d'avoir un département de musique traditionnelle où on peut ici apprendre à jouer de la vielle à roue, de l'accordéon diatonique, de la vielle à roue.
Tu as dit l'essentiel, rajouter peut-être l'importance, c'est une association, donc c'est pas anodin, donc ça veut dire que c'est d'abord les adhérents et utilisateurs des activités qui sont proposées, qui sont eux-mêmes en situation de conduire un projet. Alors bien évidemment, si l'apprentissage d'instruments de musique c'est une dimension essentielle, Gaëlle rappelait qu'on est une association d'éducation populaire, c'est-à-dire que ces apprentissages-là sont d'abord autant de supports et de prétextes pour faire ensemble. Et on est extrêmement attentif à ce que, et on va sans doute parler du 40e anniversaire qui met ça en exergue finalement, c'est d'abord de vivre une aventure collective. Et les pratiques autour des musiques traditionnelles, mais dans une vocation actuelle et contemporaine, c'est un excellent support. C'est-à-dire que le but de la manœuvre, c'est pas de faire des musiciens qui, tout seuls dans leur coin, peuvent être contents de jouer, mais c'est surtout d'engager une dimension collective de co-apprentissage, de prise de responsabilité. Et j'aurais même tendance à dire que c'est des bons supports aussi de citoyenneté, d'émancipation dans une dimension de territoire.
Et justement, vous parlez beaucoup de collectif et d'humain au-delà de la musique. Est-ce que vous pouvez un peu quantifier le nombre de personnes qui sont au sein de l'association actuellement, que ce soit au niveau des membres, des bénévoles?
Comme dans toute association, il y a des adhérents. Donc la Gaëlle pourra dire le nombre exact.
Il y a 549 adhérents sur la saison 2024-2025. Et on pense qu'il y en aura un peu plus l'année prochaine, même si on ne peut pas pousser les murs et qu'il y en a qui vont être en attente peut-être pour l'année d'après encore.
Voilà, et je rajouterais qu'au-delà de, bien évidemment, la comptabilisation des adhérents, c'est important. C'est-à-dire que c'est quand on est adhérent, c'est parce qu'on est amené à pratiquer une des activités proposées ou à participer à un stage de trad ensemble, par exemple. Enfin bon, il y a plein de supports, mais je pense que ces 500, c'est beaucoup, mais c'est qu'une petit regard sur ce que ça mobilise, parce qu'en même temps, on s'aperçoit que depuis 40 ans, Cricrac a aussi créé des dynamiques qui aujourd'hui sont présentes sur le territoire, des fois en interne, mais aussi dans des groupes musicaux qui se sont formés. Par exemple, il y a des dynamiques autour des pratiques de la danse traditionnelle qui sont mises en place. Et honnêtement, et quand je dis ça, c'est pas nous personnellement, parce qu'on est une partie une toute petite partie de l'histoire de Cricrac, mais c'est depuis 40 ans d'avoir pu créer ces conditions-là. De la même façon, hier on était encore dans le cadre du 40e anniversaire à se retrouver comme ce soir, comme demain, comme après-demain. Il y avait plein de gens, des habitants du quartier, des groupes de jeunes qui sont venus parce qu'ils ont entendu qu'il y avait de la musique. Enfin, Cricrac, c'est vraiment ça. C'est vrai que Gaëlle a raison quand elle dit c'est une école de musique. En même temps, des fois, souvent je réagis derrière en disant attention, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça que la référence à l'éducation populaire est essentielle. C'est pas simplement un lieu où on vient rencontrer un prof pour qu'il nous apprenne à faire ce qu'il faut faire. C'est d'abord un lieu de vie.
Oui, puis il y en a en dehors aussi des ateliers, des cours qui sont proposés dans les locaux ici Ferme Saint-Sauveur. C'est aussi beaucoup d'actions de médiation culturelle chez nos partenaires. On va dans les écoles, les centres sociaux, les structures petite enfance, les structures du handicap. Donc oui, on a 549 adhérents qui viennent ici dans les locaux toutes les semaines, mais on a aussi plein de personnes qu'on touche toutes les semaines dans d'autres établissements partenaires.
Vous avez notifié du coup les 40 ans de l'association. Depuis que vous êtes tous les deux au sein de cette association, quelles sont un peu les différentes évolutions que vous avez pu voir ?
J'ai envie de dire, d'abord il y a une double volonté qui a été présente dès le départ, qui était à la fois d'avoir un ancrage de territoire. Donc on est implanté à Villeneuve-d'Ascq. On pourrait évoquer d'ailleurs nos partenariats riches avec la ville, qui supporte. On est d'ailleurs dans des locaux municipaux, qui appartiennent à la ville. Donc cette dimension-là est importante. Gaël le disait, ça nous amène à intervenir dans des associations de Villeneuve-d'Ascq, dans les écoles de Villeneuve-d'Ascq. De faire des gros temps d'animation à l'espace Concorde avec le bal annuel. La liste sur longue, mais dans le même temps, on a une vocation qui est assez exceptionnelle. En tout cas, dans le champ des musiques traditionnelles, j'ai envie de dire, dans le secteur ici, il n'y a pas 50 associations. Il y a Cricrac qui est vraiment une association qui est un peu centrale. Il y a la Piposa qui est plus dans les Flandres. Et donc, on articule une dimension large, c'est-à-dire que y a des gens qui viennent d'un peu plus loin parce qu'ils sont intéressés par ce qu'on est amené à proposer et qu'on n'est pas nombreux à être sur ce créneau d'intervention-là, mais dans le même temps, avec l'idée qu'on doit aussi être en situation de s'adresser aux gens du quartier, aux gens de la ville ou des villes avoisinantes dans un travail de proximité. Donc ça, c'est présent depuis l'origine. Ce qui fait que, encore une fois, notre référence à la vie associative et la dimension collective, même si c'est présent dans les traditions d'oralité, Gaël en parlait, et d'apprentissage spécifique. On n'est pas une école d'apprentissage du solfège, par exemple, même s'il y en a qui, après, sont intéressés pour avancer un peu dans cette dimension-là. Moi, je pratique de la vielle à roue à Cricrac. J'ai pas du tout de formation musicale, mais en même temps, moi, ça me passionne parce que c'est des instruments très 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 particuliers, c'est des pratiques collectives, c'est du répertoire aussi qui renvoie à une dimension collective d'histoire, notamment dans les milieux populaires. Donc ça, c'est pour nous assez essentiel. Et Gaël complétera, mais tous ceux qui se sont suivis, alors Cricrac a vécu des périodes différentes. Moi, j'ai connu Cricrac avant que ces locaux existent là. On était dans une espèce de grand bloc, un hangar, une espèce de hangar où il faisait très froid. Donc les choses se sont développées. Les locaux que la ville a créés ont permis vraiment du développement. On aurait presque envie de dire aujourd'hui, on aurait envie de rediscuter parce qu'on explose, les murs ne suffisent plus. On dit 500 personnes, mais à l'époque, c'était pas ça, donc ça a fortement grossi. On a aussi récemment vécu une fusion avec une association de FIV qui s'appelait la MILAC, qui est venue à la fois parce que sa survie passait par un regroupement avec d'autres, donc c'est avec nous que ça s'est fait, mais ça permet à Cricrac aussi d'élargir son champ de propositions, d'activités, de savoir-faire, d'intervenants, mais aussi de public. Donc on vit un petit peu ce développement-là. Bon, en lien avec nos adhérents, en lien avec les partenaires publics, en lien avec les financements mobilisables, dans une période où c'est pas simple. La question de la démocratie culturelle et des pratiques de proximité, c'est pas toujours vécu comme une priorité, hélas, alors qu'au contraire, à un moment où il faut que le lien social se développe, à un moment où les difficultés sociales peuvent se renforcer pour un certain nombre d'habitants, et ben des associations comme Cricrac, c'est pas la seule, mais sont vraiment fondamentales. Et c'est comme ça depuis 40 ans.
Je vais rajouter, ça me fait penser ce que tu dis, depuis la fusion avec la MILAC, donc on propose à Cricrac une chorale inclusive tous les vendredis de 17h30 à 19h. L'inscription y est gratuite, hors adhésion à l'association. Et donc, qu'est-ce que c'est une chorale inclusive? Il s'agit de se rassembler dans une mixité intergénérationnelle, donc à partir de 8 ans et sans limite d'âge, et en dit valide. Donc chaque vendredi, hors vacances scolaires, se réunissent ici des enfants, des adultes, des seniors, valides ou en situation de handicap, pour partager un répertoire commun. François participe avec quelques membres de sa famille à cette chorale.
J'en suis, ouais. Avec ma fille, ma petite fille.
Voilà, qui est un bel exemple aussi de tisser du lien entre les gens et puis de ce qui est l'éducation populaire aussi ici.
Merci encore à l'association Cricrac de nous avoir accueillis pour la réalisation de cet entretien. La suite de celui-ci sera diffusée dans un instant. Mais juste avant cela, je passe le micro à Samuel qui va nous présenter trois événements qui se dérouleront cette semaine à Villeneuve-d'Ascq.
Bonjour, je m'appelle Samuel Siri, bienvenue dans le Villeneuve Mag et je vais vous présenter ma chronique. Cette chronique sera consacrée à un spectacle, à une association ainsi qu'à une radio. Le spectacle dont je m'apprête à vous parler se nomme Oh Janice, un récit qui rend hommage à Jenny Joplin, interprétée à la guitare par Hélène Palardi. Au cours de ce spectacle d'une heure et quart, Hélène Palardi racontera, en chantant avec une énergie survoltée, l'histoire et le lien qu'elle a tissé avec ses stars des années 60. Ce concert aura lieu ce jeudi 19 juin à la ferme d'en haut, à Villeneuve-d'Ascq, et nous allons écouter un morceau de Janis Joplin qui se nomme « Piece of My Heart ». Pour poursuivre cette fin de semaine et entamer un bon week-end, rien de tel que d'aller fêter la clôture d'une série d'émissions d'une radio aussi joyeuse qu'entraînante. Je parle bien évidemment de toute la musique que j'aime. Cette radio, qui n'était au départ qu'un projet, a su se développer et devenir la radio qui enchaîne les émissions depuis mars et qui, ce samedi, achèvera sa dernière, qui s'intitule « Laissez-moi danser ». Sébastien Vial, le porteur du projet, et son équipe nous donnent rendez-vous à la maison de quartier Pasteur à 18h30 pour 2 heures de joie et d'amusement. Cette clôture sera par la suite suivie d'une fête de la musique. Au programme, 1h30 de musique cubaine, jouée par 6 musiciens de la compagnie La Cantina. De quoi prendre la température pour chauffer la piste. En parlant de piste, pourquoi ne prendriez-vous pas votre vélo pour aller faire un tour, sauf si celui-ci est en mauvais état? Dans ce cas-là, pas de souci. Rendez-vous avec Légende du Nord, une association qui vous aidera à réparer votre vélo pour que vous puissiez reprendre la route ce dimanche 22 juin. Pour plus d'infos, rendez-vous sur www.villeneuve-d'Ascq.fr.
Merci à toi Samuel pour cette revue des événements de la semaine. Comme expliqué en début d'émission, nous retournons désormais au sein des locaux de l'association Cric Crac pour y découvrir la deuxième partie de notre entretien consacré aux 40 ans de l'association et des festivités qui entourent cette année exceptionnelle. Pour ces 40 ans, vous avez fait et vous faites encore de nombreux concerts. À quel point cette année est spéciale pour vous ?
Le 40e anniversaire, ça a été 15 jours non-stop. Hein, on est un peu d'ailleurs sur les rotules tous. Hein. Hein, à la fois l'ensemble des gens qui participent aux activités, ça a été l'occasion, comme on le fait tous les ans, de rendre compte, de jouer devant les amis, la famille, hein, les gens qui veulent venir, mais aussi un certain nombre de programmations. Hein. Hier, c'était Groove Factory. Ce soir, c'est un duo de Via La Roue. Et puis, donc après-demain, eh ben, c'est un anniversaire. Donc, par définition, on va manger du gâteau.
Hein, et souffler des bougies.
Et on n'a pas fait un gâteau, on va faire 40 gâteaux, et c'est les adhérents qui vont les faire. Donc on va rassembler 40 gâteaux, ouais, des bougies, hein, tous les intervenants dans les activités vont faire un concert. Bon, voilà, c'est un moment festif, et on est en train de vivre ça depuis 15 jours. Hein, d'ailleurs, on est des fois un peu. Je ne vais pas dire inquiet, mais la salle ici est remplie. Des fois, la jauge, je ne devrais pas le dire, parce que. Mais bon, si on était vraiment légaliste, on dirait aux gens, bah non, vous ne pouvez pas rentrer, c'est plein, vous reviendrez une autre fois. Hein, et donc ça, c'est. Voilà. Pour le 40e, il n'y avait pas mieux. Enfin, j'ai envie de dire, c'est de la programmation, mais c'est surtout que les gens soient contents de venir, qu'on se rencontre, qu'on boive un coup, qu'on mange un gâteau. Qu'on riole, qu'on danse.
Qu'on danse, j'allais dire.
Hein, hier, c'était particulièrement ça. Bon, voilà.
Ouais, là, pour les 40 ans, on a essayé de mettre le paquet un peu plus quand même que les années précédentes. On a fait installer un parquet de danse là dans la cour de la ferme, du coup, surtout pour le bal qui a eu lieu donc hier soir. Et oui, on a tous mis encore un peu plus la main à la pâte que d'habitude, surtout. Parmi les bénévoles de l'asso qui ont vraiment joué le jeu de la fête et de se dire qu'il faut vraiment marquer le coup cette année.
Concernant les festivités, justement, comment vous avez pensé à tout cela ? Comment ça s'est déroulé en coulisses un peu ? Que ce soit quantité de travail que vous avez eu au quotidien ou comment vous avez pensé la programmation, etc.
Le festival, il a lieu chaque année autour de la mi-juin, hein, donc on n'a pas changé, parce qu'il y a un festival Cric-Crac chaque année. Donc cette année, il est un peu particulier avec l'anniversaire, mais chaque année, à la mi-juin, on peut venir écouter de la musique, danser et, à Cric-Crac. Donc l'année prochaine, ce sera encore là, n'hésitez pas. Moi, j'ai toujours beaucoup de mal à évaluer la quantité de travail. Je ne sais pas répondre.
Bah, on est très gourmand. C'est-à-dire que enfin, tout est affiché là dehors.
Ouais.
Même nous, pourtant, on est dès l'origine à la mise en place. Moi, tous les matins, quand je me lève, il faut que j'ouvre mon téléphone pour revoir. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a tout à 17h, 17h30, 18h, 19h. Hein, bon, enfin voilà quoi. Hein, donc c'est. Ouais, c'est presque.
Après, il est aussi
pas humain ce qu'on a mis en place.
Oui, parce que ce festival, il est particulier parce que c'est les 40 ans de l'asso et aussi parce que c'est le premier depuis la fusion avec la MILAC et que le nombre d'adhérents n'ayant pas doublé, mais presque de l'année dernière, en plus, donc ça fait aussi beaucoup plus de monde qui joue pendant le festival. Donc oui, de fait, effectivement, le programme, il faisait 12-13 pages, quoi, donc sur les deux semaines. Mais tout va bien, hein. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien mieux passé finalement, l'organisation, que moi je suis là depuis 3 ans et demi, donc j'ai dû prendre aussi mes marques. Hein. Même si cette année il y a eu plus de choses programmées, plus de concerts, plus d'adhérents, plus d'invités, plus de logistique, finalement je trouve que ça a été plus fluide que l'année précédente et encore d'avant. Donc.
Ouais, puis ça profile, enfin tu le disais, quoi, une rentrée là, pour la prochaine saison où il y a plus de monde, enfin ça c'est un signe qui trompe pas, quoi, hein, parce qu'après, forcément, nous on dit que tout va bien, mais.
Il y a des listes d'attente hein, déjà sur voilà. La plupart des provinces.
Bon, et ça, c'est une indication intéressante. Enfin, après, les groupes qu'on accueille, donc hier, c'était un groupe d'Occitan. Hein, bon, c'est toujours intéressant de voir comment ils perçoivent le lieu, parce qu'ils viennent pas simplement se mettre sur la scène et faire de l'accordéon et repartir après. Hein, ils sont au milieu d'une dynamique qu'ils ressentent. Et bon, je sais que moi, pour les avoir reconduits dans leur train là ce matin, bon, ils étaient assez épatés, quoi, de ce qu'ils pouvaient ressentir, de l'ambiance entre les gens. Comme d'ailleurs le chanteur à un moment sur la scène dit, c'est incroyable ici, on dirait un mariage, sauf que c'est pas chiant.
C'est vrai.
Voilà.
Et c'est vrai que cette ambiance, au sein de l'équipe salariée, il y a aussi vraiment, on est soudés, quoi. On est cric-crac, c'est une petite famille. Il y a un investissement de chacun. On va dans le même sens pour faire ensemble avec nos adhérents. Et c'est quelque chose de précieux qu'on ne retrouve pas dans tous les établissements culturels, forcément. Voilà, moi, c'est important pour moi de travailler à mettre ça en place. Et puis quand j'entends mes collègues qui me le disent au détour d'une conversation, ça me fait plaisir.
Ouais.
On passe beaucoup de temps ici, nous, au travail, hein, parce que y a les adhérents, les bénévoles, mais nous, c'est notre travail. Parfois les gens ils pensent qu'on s'amuse parce que oui on aime bien notre travail et qu'on fait des choses sympas, mais on crée aussi cet univers là ensemble et on a de la chance d'avoir des gens autour de nous, la ville qui nous soutient, des bénévoles pour faire que tout ça ça peut exister et d'être soutenu un peu partout pour que ça fonctionne.
Vous avez un peu évoqué l'avenir avec la rentrée future, avec une demande d'adhérents toujours plus élevée. Justement, dans un futur proche, on va dire, est-ce qu'il y a des projets concrets que vous avez en tête, ou c'est un peu, on verra chaque année un peu ce qui se passe et on continue comme on continue depuis des années justement, et vu que ça marche bien, pourquoi pas changer ?
C'est jamais comme ça. Enfin, c'est sûr qu'il y a des incontournables, les pratiques instrumentales, encore que là ça change, avec l'arrivée de la Milac, le ukulélé il est arrivé, et c'est génial, et ça prend sa place, la pratique du piano aussi, donc il y a, on additionne, bon, et puis des fois il peut y avoir des pratiques d'instruments qui sont qui sont moins demandées, en permanence c'est de s'adapter à ça, encore une fois, moi je fais de la vie à la roue, il y a une époque où les gens qui voulaient faire de la vie à la roue c'était quand même assez rare. Là aujourd'hui, on va jouer ce soir, on va jouer plusieurs soirs, mais ce soir on va être neuf vielleux. Il n'y a pas beaucoup de communes qui peuvent dire chez nous, il y a. Donc il y a un peu ça, mais en permanence, là cette année, on a créé notre Cric-Crac le Mag. Mmh. Voilà, donc on a bénévolement, là maintenant on a un petit journal en direction des adhérents, on va distribuer le 7e numéro. Après-demain, on l'a créé il y a 6 mois. Donc ça veut dire, au début on avait dit on va faire un numéro tous les trimestres, ou peut-être 2 par an. Là on en a fait 7 en 6 mois, quoi. Donc c'est.
Tu en as sous le coude encore.
Ouais, puis chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente, et puis on est sollicité aussi de l'extérieur, c'est toujours de dire bon, on essaye de répondre. Bon, Gaëlle a raison, Gaëlle. Des fois elle nous rappelle aux réalités en disant bon, le problème c'est qu'on ne peut pas tout additionner, tout faire, parce qu'à un moment on risque de ne pas bien faire.
On a beaucoup de projets qui sont en train de se dessiner là, à partir de la rentrée, notamment en termes de partenariat. Là, on a une convention de partenariat avec le Centre de formation des musiciens intervenants de l'Université de Lille 3. On va probablement accueillir des étudiants et un concert avec Jean-François Vrault à l'automne. On a un partenariat qui est en train de se créer aussi avec Lara à Roubaix. Nos adhérents sont allés jouer un bal pendant la kermesse de Lara là récemment, et on va les accueillir en début d'année en octobre pour une formation au risque auditif avec les salariés, et on va essayer de travailler ensemble avec nos équipes pédagogiques respectives à la création d'un podcast. Voilà, donc il y a ces choses-là qui se dessinent. On a un projet en partenariat avec la Rose des Vents là aussi pour la réouverture en mois de décembre. Voilà, il y a beaucoup, là c'est ce qui va se passer tout de suite hein, en rentrant là entre septembre et décembre, mais il y a beaucoup de projets en cours. Le bal 2027 est déjà presque programmé. Voilà.
Et puis après, voilà, on essaye aussi sur des choses qui peuvent paraître pas directement en rapport avec notre projet associatif. Je pense à un travail qu'on commence à mener avec l'APC de Villeneuve-d'Ascq, oui, sur l'idée de dire comment on interroge toutes nos pratiques. Ici, là, par l'organisation des bals, dans la gestion de ce bâtiment ici, les instruments de musique, qui soient en conformité avec les enjeux environnementaux et de circuits courts, par exemple. Hein, ouais. Alors ça paraît des petites choses, hein, mais hier avec l'APC on a mis en place une collecte des déchets qui est un peu plus réfléchie et aboutie que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. Donc de se dire, il faut qu'on soit en cohérence dans tout ce qu'on fait avec finalement ce projet qu'on a de citoyenneté et d'engagement. Bon, donc là, hein, sur ces questions-là, on travaille avec l'APC, mais demain, ça peut être, on est aussi partie prenante d'autres associations qui regroupent, hein, on est adhérent de la FAMDT, qui est la Fédération Nationale des Musiques Traditionnelles et de la Danse Traditionnelle, hein, mais on se pose aussi la question d'appartenir à des fédérations d'éducation populaire qui portent aussi des enjeux, parce qu'on sent bien que on n'est pas, nous, isolés dans notre petit machin dans notre coin. Il faut qu'on fasse lien avec tous les enjeux associatifs, les enjeux de démocratie culturelle, d'ouverture culturelle à tous, parce que ça, c'est des vrais combats. Mais c'est pas simplement dans le verbe. Nous, ce qu'il faut, c'est qu'on arrive, avec nos petites ambitions du quotidien, à transformer ça dans des actes qui profitent à nos adhérents, aux habitants, à la commune, enfin voilà. Donc ça nous occupe, ouais. Ça nous occupe.
Ça occupe la retraite plus que le boulot, quoi, pour certains. Et là, je fais un petit mot, parce que du coup, l'émission va sortir à la fin de notre festival. Mais il y a un événement toutefois qui va encore avoir lieu avant qu'on ferme définitivement pour l'été. Samedi 28, on organise en partenariat avec l'Atelier 2, qui est l'asso l'école d'art plastique qui est notre voisine de la ferme Saint-Sauveur. On organise dans le cadre de l'île 3000, édition Festa, Banquet Colors, donc samedi 28, ici ferme Saint-Sauveur. Il y a une parade qui va partir du musée du LAM à 18h le samedi 28, avec les enfants des classes de l'école Boris Vian qui ont profité d'ateliers avec notre collègue Benjamin. Là. Ils montent une fanfare, batterie de cuisine, pour arriver jusqu'à la ferme Saint-Sauveur en déambulation, où donc sera organisé un grand banquet mis en scène par Erika Vori. Il va y avoir des super concerts, un karaoké live, et ça va être top. Et c'est gratuit.
Merci à Gaëlle Vallée, directrice administrative et pédagogique, ainsi qu'à François Chastain, bénévole, pour cet entretien et d'avoir répondu aux questions de Radio Campus Lille. C'est la fin de ce magazine du mercredi 18 juin, spécial musique, fête de la musique oblige. Nous vous retrouvons mercredi prochain, toujours sur les ondes de Radio Campus Lille, pour un nouveau Villeneuve Mag, votre magazine qui traite de l'actualité de la ville de Villeneuve-d'Ascq. Et on se quitte avec Ladies Room, un morceau de l'artiste Olivia Dean. Bonne fin de journée à vous.
Radio Campus Lille, 18h30.
Radio Campus, 106,6.
Qu'est-ce qui se passe ici encore? Vous savez l'heure qu'il est, putain de merde?
Mais c'est pas vraiment la guerre, dites-moi que je rêve.
C'est pire que la guerre!
Permettez que je jette un coup d'œil à la flèche, je suis métier.
Moi je comprends rien.
Moi non plus.
Mais ça, réfugiez-vous dans le détail.
Avouez, cher monsieur, que la mésaventure qui va suivre vous est déjà.
Cette crise est en fait, au départ, un crime.
L'origine de la crise, c'est quoi? C'est
la crise. Traverser la
rue. Les pays qui ont été fortement impactés par la crise.
Notamment de la part d'entreprises qui faisaient des gros bénéfices.
La crise? Quelle crise?
Cette crise n'est pas terminée.
Allez, on passe au plan B. Allez, top!
C'est l'heure
de mettre
là,
on peut
le mettre.
Je ne connais
pas tout de
gauche,
c'est évident.
Parce que ça change, on fait semblant d'écouter, on dit qu'on comprend, mais qu'on n'y parle rien, puis dans une heure, on s'arrête pour aller casser la graine. Alors,
Nous ne voulons pas de la lutte des classes.
Et puis, tout à coup, explosion sociale, occupation d'usine.
Ouais, la révolution, par exemple, on ne sait jamais, vous vendez tout.
Franchement, tu fallait le tapis avec ton sang.
C'est quoi vous dire que l'engin est révolutionnaire dans ses caractéristiques, mais résolument classique dans sa conception.
Ah, vous m'énervez tellement que vous avez détraqué mon système optique.
Parce que c'est difficile d'expliquer à des...
Si j'étais UGP, on dirait que c'est un dérapage.
Vous dégueulez sur mes foutus pas
Bien évidemment, c'est un repli par rapport à un acquis social.
Nous ne sommes pas là pour rechercher des boucs émissaires.
Enfin, moi, j'ai rien à voir avec les riches.
La connerie à ce point-là, ça devient gênant.
Qui c'est cela?
C'est dans le mètre.
Là, dans le mètre.
Vous allez le mettre où, ça?
Moi, vous allez voir ce que vous allez voir.
Et puis, un petit peu de monde. Et puis, un petit...
Après, c'est encore le même conseil social. Et la chanson, c'est la même.
Hein, il y en a qui font des promesses, d'autres qui donnent des espoirs, et puis à la fin du compte, on n'a rien.
Je n'ai que faire des chômeurs assistés.
Mais je dois forcément toucher, les jamais tomber en panne de pauvre. Je dis tant que vous ne connaissez pas. Sans quoi, tu dis, jamais je ne peux pas.
Aujourd'hui, mercredi 18 juin 2025, c'est la Saint Rising Lion. Saint Rising Lion, ou Saint Lion s'éveillant, ou Saint Lion dressé, est le saint patron du nouveau petit nom poétique que l'État génocidaire israélien a donné à son agression préventive en Iran, parce qu'Israël a le droit de se défendre. Et même de se défendre avant qu'on attaque. C'est parce qu'on peut être un criminel contre l'humanité et conserver son âme de poète que Saint Rising Lion a été canonisé. Parce qu'il aime la poésie, les images et les figures de style, le colon sioniste génocidaire. D'où la métaphore biblique tirée du livre des Nombres, le quatrième livre de l'Ancien Testament. Le peuple s'élèvera comme un grand lion et il se dressera comme un jeune lion. Il ne reposera pas avant d'avoir dévoré la proie et bu le sang des morts. Eh, hey, quand même, ça a plus de gueule que... Bah merde, même nos plus ardents défenseurs commencent à se dire qu'on exagère un peu à Gaza. Vite, une autre cible, arabe si possible. Là, les mots là de Téhéran, feu à volonté! Ce qui est quand même une grave erreur. Les Iraniens, c'est des Perses, et les Perses, bah, c'est pas des Arabes. Ah, la poésie. Une des figures de style préférées des assassins israéliens, c'est d'abord l'anaphore. L'anaphore, ça consiste à répéter des termes en début de vers. Opération Barak, Opération Kadesh, Opération Focus, Opération Gift, Opération Litanie. Bon, ça rime pas beaucoup. Opération Opéra, là on cumule anaphore et assonance, mais juste pour 11 morts. Opération Mole Cricket, Opération Jambe de bois, Opération Raisin de la colère, Opération Rempart, Opération Arc-en-ciel, Opération Pluie d'été, Opération Plomb durci, Opération Vent du ciel, Opération Colonne de nuée, Opération Bordure protectrice, Opération Château de cartes, Opération Bras tendu. Ah oui, ça existe, hein. Ce qui est quand même un choix malheureux, mais qui colle pas mal à la méthode israélienne d'éradication de tout ce qui ressemble de près ou de loin à un Palestinien, ou à un Yéménite, ou à un Libanais. Ou un Iranien, ou un Syrien. Non, plus maintenant la Syrie. La Syrie, maintenant, c'est un pays ami grâce à Joulani. En tout cas, maintenant, c'est opération Rising Lion. Tout de suite après l'anaphore, qui a tout de même fait plusieurs centaines de milliers de morts depuis 1948, et putain, c'est dangereux la poésie quand t'es palestinien. L'autre figure de style préférée d'Israël, c'est l'euphémisme. Adoucissement, des frappes, des ripostes, le droit de se défendre, les incursions, la réplique, les représailles, les bombardements, mais de haute précision. La force de défense d'Israël. Ah, ça sonne quand même mieux à l'oreille que crime de guerre, violation du droit international, occupation, meurtre de prisonniers de guerre ou de combattants, même de ceux qui se sont rendus. Ciblage intentionnel de civils, même personnel médical ou journaliste. Châtiment collectif, famine, persécution, violence sexuelle, viol, torture, pillage, déplacement forcé de population, disparition, incitation au génocide, génocide. Mais, à la fin, quand même, la figure de style préférée des sionistes, ça reste l'oxymore. Démocratie israélienne. Ça claque quand même, hein. Et le pire, c'est qu'il n'y a que le gros con d'occidental qui y croit. Et gros con d'occidental, ça, c'est un pléonasme. Aujourd'hui, mercredi 18 juin, le soleil s'est levé. Il y a des couillonnes qui parlent d'extradition. Il va se coucher, oui, mais question tutu tintin. Une voix derrière lui fait ratatatatata. Et accessoirement, c'est l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, campusil.com et le DAB+.
سفينة سفينة والله ما تمشي سفينة تمويهاكم كاشفينة إما تجنب رهينة أو نقلع أم الماكينة ونحاصر ابن اللعينة بيد على بنيامينة يلعن أبو والدينا
سفينة سفينة اليمني كسف السفينة راس الراجا في يمينة والهندي ومحاصرينة
والبهر الأهمر في كمينة
والأبيض طايح بيدينة
والأسود
بكرة جايينة بنيامين نقبر مين المتورطين ومحاصرين
يو بايدن الو هات الصولين والغرب فين
فين امريكا وبريطانيا والدنمارك فرنسا المانيا انا مشغول عباده ومش قادر اهدع ولا ثانية
هاتوا الناتو الغربي خليكوا جنبي جنبي انا لليمن مش ناكس
يا ابن الخراطة موسادك بانت خباطة
تبنى علشان تفرقاتها والقوة اليمن يجبتها
ضربتها ضربتها
ضربة يخرب بيتها
نهرب فين جينا يمين جينا يسار وصابتها
ملي 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 مليار
لصاروخ بالفين دولار
يا خسارة كل غارة واقتصادنا بدا ينهار
وانا 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 وانتو
تحيين واللجن انتو
انتو معايا كنتو
مجرم حرب انا وانتو
1 2 1 2 1 2 مجرم حربنا وانتو
كنا نحشش من تحشيشك جيشك جيشنا وجيشنا جيشك ولنا تفرشنا في البحر بغزاين تفريشك
فاينل هلف الكذبي فاينل استول الهربي فنهك كامل مراكز لا 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 قلبي 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 قلبي
سافينا سافينا والله ما تمشي سافينا نعجن أبوها عاجينا وحلفاكم داعزينا لا كلب يرفع جابينا واللي مصممني هنا مع الذي بايعينا نلعن أبو والدينا
سافينا سافينا ما بك اليمني سافينا ومن هرب لحكينا ومن قرب خطفينا وسطولنا ضربينا وحصرهم فرضينا من وين نعبر منينا وينا 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 وينا
Et c'est bien l'heure de le mettre sur le saucisse pois chiche de Radio Campus, comme tous les mercredis, à cette heure-ci, ou à peu près. Et j'espère que vous avez apprécié cette délicieuse chanson yéménite Houthi. Ce soir, on vous propose d'écouter deux interviews réalisées par notre camarade Michel Collomb du site Investigaction. C'est son nouveau format forum, donc une interview de certaines personnalités. Vous pourrez entendre Victor Dédage à propos des dessous de la libération de Julian Assange, Wikileaks, ça vous dit quelque chose. Mais juste avant, donc c'est-à-dire maintenant, ouais, quasiment maintenant. Donc, l'interview de Michel Collomb, enfin l'interview de Saïd Bamama, notre camarade Saïd Bamama, par Michel Collomb. Pourquoi l'Occident a créé Israël ? C'est très exactement l'heure de le mettre.
Un quart d'heure en Palestine.
Bienvenue pour la première de Forum, l'émission qui va, derrière les images officielles de l'Europe, montrer sa réalité avec des invités de l'Europe, des pays du Sud. Et le tout premier, c'est Saïd Bouamama. Bonjour Saïd.
Bonjour.
Tu es né en France, à Roubaix, en 1958. Tu as gardé la nationalité algérienne, tu es sociologue, éducateur de terrain, auteur de toute une série de livres passionnants, dont le dernier Manuel stratégique de la Palestine et du Moyen-Orient. Pourquoi manuel et pourquoi stratégique ?
Alors le terme manuel, c'est tout simplement parce que le compte-rendu médiatique des événements internationaux aujourd'hui ne permet pas aux citoyens de comprendre la réalité. Et qu'il me semblait que les enjeux étaient tellement importants sur un certain nombre de sujets, et en particulier sur celui-là, la Palestine et le Moyen-Orient, qu'il fallait recontextualiser, donner les fondamentaux, donner les éléments de base qui permettent aux citoyens de se faire un point de vue raisonné, un point de vue objectivé, afin qu'ils sachent comment se positionner par rapport à ce conflit qui est dramatique aujourd'hui.
C'est un conflit que tout le monde vit douloureusement. Il y a ce sentiment qu'on ne comprend pas très bien pourquoi, ou en tout cas comment ça se fait que ça ne se résout pas. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de frustration, de haine aussi. Est-ce que c'est possible d'en sortir ?
Absolument. Sans avoir les données de base, sans avoir les éléments historiques, sans avoir les enjeux stratégique et économique, on ne peut qu'en rester à l'émotionnel. L'émotionnel est bien entendu nécessaire, mais si on en reste à cela, on ne peut pas comprendre les véritables enjeux et donc les priorités qui se posent pour aboutir un jour à une solution dans cette région qui soit une solution juste. Et c'est pour cela que c'est essentiel que les citoyens du monde se rendent compte qu'il y a des intérêts énormes dans cette région qui explique pourquoi nous en arrivons à un génocide télévisé, le premier génocide de l'histoire de l'humanité en télévisé.
C'est un conflit qui dure depuis 75 ans. Beaucoup de gens ont l'impression qu'il n'y a pas de solution, et en même temps, il y a une violence sans précédent. Qu'est-ce qui explique qu'il n'y a pas de solution ?
Ce qui explique qu'il n'y a pas de solution, sur le court terme en tout cas, c'est la dimension stratégique de la région. Cette région est une région particulière. Elle se situe à l'intersection de trois continents, l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Et cette situation géographique a fait de la région, de tout temps, un enjeu pour le contrôle, pour ceux qui voulaient dominer le monde. Aujourd'hui, ceux qui prétendent à une hégémonie sur le monde ont besoin de contrôler cette région, et c'était déjà le cas dans le passé. Beaucoup de nos concitoyens, en Europe en tout cas, ont pu apprendre dans les manuels scolaires les croisades, et ils ont pu croire que les motifs religieux des croisades étaient les motifs essentiels. Il suffit de regarder les routes commerciales de l'époque pour s'apercevoir que déjà la région était un nœud stratégique et sans doute le nœud stratégique principal de l'équilibre du monde.
Et c'est, les routes commerciales vers où ?
Alors, comme on est à l'intersection de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, c'est effectivement ce qui permet d'aller vers ce qui était le cœur industriel du monde, qui était l'Europe. Et donc le contrôle entre les sources de matières premières qui venaient d'Asie et d'Afrique et l'Europe était une dimension essentielle. Et c'est pour ça que cette région est un nœud stratégique essentiel.
C'est un genre de crime géographique.
Absolument, absolument, c'est un crime géographique. Et les Palestiniens, comme les peuples arabes du Moyen-Orient, souffrent du fait qu'ils sont dans un endroit où se joue l'équilibre du monde.
Est-ce qu'il y avait aussi un enjeu par rapport à la nation arabe ? C'est quand même une nation qui s'étend très loin, de Maroc, Algérie, jusque l'Égypte et puis tout le Moyen-Orient. C'est aussi un enjeu ?
Alors, pour comprendre pourquoi la question de la nation arabe est une question qui a été essentielle pour déterminer les politiques des grandes puissances dans la région, il faut aussi avoir en tête que cette place stratégique commerciale va faire que la première puissance coloniale de l'époque, au début du colonialisme qui a été l'Angleterre, que cette première puissance coloniale avait besoin de contrôler cette région parce qu'elle était tout simplement un point de passage incontournable sur la route des Indes. Et rappelons que l'occupation de l'Inde par la Grande-Bretagne est l'explication du boom industriel anglais qui va faire de l'Angleterre la puissance hégémonique pendant près d'un siècle et demi. Et donc l'Angleterre avait besoin de contrôler cela. Et pour contrôler cela, il fallait éviter ce qui émerge à l'époque dans beaucoup d'endroits du monde, qui est l'accélération du processus de construction nationale. Partout où les peuples ont été colonisés, des prises de conscience se réalisent, des volontés d'affirmation nationale et de libération nationale se mettent en place. Et au Moyen-Orient, la nation arabe commence à s'affirmer et à vouloir une existence en tant qu'État uni. Et donc on a une volonté d'unification de tous les peuples arabes qui se met en place. Or, si l'on regarde où se situe la Palestine, elle se situe en plein centre du monde arabe, c'est-à-dire que l'existence d'un État qui va être l'État sioniste en lien avec l'Occident empêche cette nation arabe de se constituer. Et effectivement, jusqu'à aujourd'hui, l'existence d'Israël a empêché le processus de construction nationale arabe d'aboutir à la constitution d'un État-nation unique et divers, mais unique également.
Donc, diviser les Arabes, est-ce que on associe beaucoup le Moyen-Orient au pétrole, plus tard au gaz ? Est-ce que ça a commencé avant ou est-ce que c'est déjà un facteur en plus de
ça a commencé avant. Les premiers, c'est la Première Guerre mondiale, en gros, qui va montrer le caractère stratégique de l'énergie pétrolière. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que, en réalité, le monde va aller vers la course au pétrole. Donc, mais le mouvement sioniste a déjà des soutiens auparavant. C'est donc bien avant, c'est bien cette dimension stratégique de la route, hein, cet endroit de passage qu'est le Moyen-Orient, qui fait sa dimension stratégique. Se surajoute à cela les préoccupations politiques pour éviter l'émergence d'une nation arabe, et se surajoute à cela la découverte du pétrole qui va venir encore renforcer la place de cette région. On le voit, ces trois facteurs font de cette région un cas quasi unique sur l'ensemble de la planète. D'autres régions de la planète sont stratégiques, mais celle-là revêt une place prédominante.
Bon, tu as parlé de la Grande-Bretagne, de l'Inde, mais ça, c'est un peu de l'histoire ancienne. Au niveau des routes commerciales, c'est quand même les États-Unis maintenant qui dominent le monde. Et eux, ils sont aussi dans cette position-là ?
Absolument. Il suffit d'avoir en tête que la région est un point de passage stratégique pour les nouvelles routes de le grand projet de nouvelles routes de la soie chinoise, qui sont un vaste projet d'infrastructure terrestre, aérienne, informatique, etc. Et cette région est un point de passage, encore une fois, pour les mêmes raisons, à l'intersection de trois continents, pour les mêmes raisons. Et bien entendu, les États-Unis, qui aujourd'hui ont officiellement comme stratégie de contrecarrer le développement de la Chine, de contrecarrer le fait que la Chine tisse des liens commerciaux avec de très nombreux pays du monde, comme c'est la stratégie officielle des États-Unis, le contrôle de cette région est encore aujourd'hui, pour les mêmes raisons qu'hier, même si c'est avec des technologies plus contemporaines, une priorité pour les États-Unis.
On a souvent présenté la création d'Israël comme la volonté des Juifs ou de certains Juifs, les sionistes. Et donc, c'est le facteur important ou c'est un facteur secondaire ?
Le mouvement sioniste, lorsqu'il apparaît, est un mouvement politique en réaction au pogrom européen. Il est extrêmement minoritaire. Il est même entièrement marginal. Les premières initiatives que prend le mouvement sioniste pour mobiliser la communauté juive sont un échec complet. On a les deux premiers appels à fonds juifs pour acheter des terres en Palestine qui débouchent sur des sommes extrêmement ridicules. Autrement dit, les juifs européens ne se sentent pas dans un intérêt d'aller quitter leur pays, quitter le pays de leurs ancêtres pour aller habiter en Palestine. C'est un échec complet. Ça aurait pu rester un projet marginal de quelques uluberlus pendant longtemps si cela n'avait pas rencontré les intérêts d'une grande puissance. D'ailleurs, le mouvement sioniste le théorise dès le premier congrès sioniste mondial dans lequel il est indiqué que les chances de succès supposent de trouver un parrain impérialiste, une grande puissance qui vienne parrainer la création d'un État artificiel dans la région.
Et qui ils ont été chercher ?
Alors, ils sont partis voir l'ensemble des grandes puissances de l'époque. On va donc voir le Kaiser allemand en lui proposant de devenir un État vassal de l'Empire allemand. Mais le Kaiser est en lien d'alliance avec l'Empire ottoman, dans laquelle se situe la Palestine. Et donc, il leur dit « je ne peux pas ». Puisque mon allié, c'est le sultan ottoman. On va voir l'Angleterre qui, dans un premier temps, leur répond exactement la même chose en disant « mais moi, je ne veux pas me mettre à dos l'Empire ottoman ». On va même voir le tsar de Russie, qui est un tsar antisémite, ouvertement antisémite. On a là une alliance du sionisme et de l'antisémitisme. On a des preuves écrites qui sont mentionnées dans le manuel stratégique de l'Afrique, où le ministre de l'Intérieur, qui a été un organisateur de pogroms, reconnaît le mouvement sioniste et dit l'appuyer, mais dit qu'il ne peut pas, pour les mêmes raisons, l'alliance avec l'Empire ottoman. Donc pendant tout un temps, on va avoir des démarches du mouvement sioniste pour obtenir un parrain. Il va falloir attendre la Première Guerre mondiale, et en particulier la défaite des Dardanelles, c'est-à-dire les Anglo-Français commencent la guerre par une grande défaite, une énorme défaite qui aurait pu changer le cours de la guerre. Et leur stratégie, ça va être d'essayer d'obtenir l'entrée en guerre des États-Unis. Et or, le mouvement sioniste est présent fortement dans un seul pays, qui sont les États-Unis. Et donc, le mouvement sioniste va être un acteur premier de l'entrée en guerre des États-Unis en faisant agir tous les réseaux, tous les soutiens qu'ils ont au sein du département du gouvernement états-unien, et ils vont finir par jouer un rôle important dans l'entrée en guerre des États-Unis. Et c'est à ce moment-là que, pour obtenir cette mobilisation du mouvement sioniste états-unien, eh bien, on va avoir les deux déclarations qui montrent l'enjeu international de la Palestine, la déclaration Balfour, qui promet aux sionistes la création d'un foyer national juif en Palestine, autrement dit d'un État palestinien. Hein, on a choisi des mots pour masquer l'enjeu, mais c'est en réalité un État juif en Palestine. Et la déclaration Combon, ce qui montre que toutes les puissances impérialistes
qui
étaient intéressées. Combon est un représentant du ministère des Affaires étrangères français. Alors, donc, ce n'est pas que la Grande-Bretagne qui reconnaît exactement, qui fait exactement les mêmes promesses que Balfour, la création d'un État juif artificiel dans la région.
Balfour est hyper connu, mais qu'il y avait une déclaration française semblable, ça, c'est pas connu. Ça explique qu'en fait, c'est une logique coloniale générale ?
Absolument, et ça explique aussi que ce qu'il y a derrière, ça n'est pas un philosémitisme, l'amour des Juifs, ça n'est pas ça qu'il y avait derrière les positions de la France et de la Grande-Bretagne. C'est bien des intérêts économiques, des intérêts stratégiques qui ont guidé le soutien au mouvement sioniste. de la même façon que ça n'est pas simplement par refus de l'antisémitisme que le mouvement sioniste se développe, c'est aussi dans le cadre de, d'un service offert à un certain nombre de grandes puissances.
Cette histoire-là, ce n'est pas ce qu'on m'a raconté à l'école. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est Israël est né parce qu'Hitler avait massacré les Juifs, donc il fallait qu'ils aient un refuge.
Eh bien, c'est ça s'appelle un mensonge historique, ça s'appelle un roman de justification, un roman de légitimation. Il suffit d'aller plonger dans les débats du mouvement sioniste antérieur à la Shoah pour s'apercevoir que les dés sont déjà joués avant et que dès le mandat britannique, on a la volonté de rendre majoritaire la population juive en Palestine pour déboucher sur un État majoritairement juif en Palestine.
Radio Campus.
Notre spécialité, ce serait d'être les spécialistes de la clarté dans la confusion.
106,6.
Quelle était l'attitude des dirigeants sionistes dans les années 30 et pendant la Seconde Guerre mondiale aussi par rapport au nazisme? C'était quand même un ennemi, un danger qui unissait presque toute l'humanité. On a vu l'URSS communiste, les États-Unis capitalistes finalement se tourner contre Hitler, contre le nazisme. Et les dirigeants sionistes aussi ?
Alors, il faut distinguer les dirigeants de la communauté juive et les dirigeants sionistes. Du côté de la communauté juive, la réaction est immédiate. Dès les premiers actes antisémites de l'État nazi, il y a un appel au boycott des produits allemands qui est lancé. Cet appel au boycott commence à avoir des effets extrêmement importants, un peu comme le boycott en Afrique du Sud, qui a affaibli l'apartheid, et comme l'appel au boycott en Palestine aujourd'hui pour affaiblir l'État d'Israël. Eh bien, ça marche. Les exportations allemandes diminuent et ils sont extrêmement inquiets sur leur capacité de tenir pour mener la guerre qu'ils prévoient. Et là, le mouvement sioniste va entrer en jeu et on va avoir des accords entre le nazisme et le sionisme pour obtenir le droit à l'immigration sous parrainage du mouvement sioniste pour les juifs aisés d'Allemagne. Des accords vont être signés. Dans le livre, tout un chapitre est consacré à ces accords entre le mouvement sionisme et le nazi, sous la forme suivante. Autorisation des juifs qui ont un certain capital d'immigrer vers la Palestine, simplement leur fortune est bloquée sur un compte et ils ne peuvent le